À tous aujourd'hui, jour de la fête de la musique, le pape du reggae, Bob Marley.
Ladies and gentlemen, a big round of applause for Bob Marley and the Wailers. Come on, put your hands together. May the voice be good.
Yeah! Ja Rastafari!
Ans d'histoire. Depuis sa mort en 1981, à l'âge de 36 ans, Bob Marley est devenu un mythe. De la Jamaïque où il est né, jusque dans l'Éthiopie rêvée des Rastas, de la vieille Europe jusqu'au fin fond de la Mongolie, on se souvient de ses célèbres dreadlocks, de ses bonnets de laine et surtout de la cadence envoûtante des reggae avec lesquels il était devenu le porte-parole et le défenseur de tous les opprimés du monde. Avec un badge ou un t-shirt Bob Marley, disait Manu Chao, tu peux faire le tour du monde, pénétrer sans crainte dans les quartiers les plus malfamés, il est le seul à posséder cette dimension planétaire et à incarner à la fois la rébellion et la non-violence. Mais Bob Marley, c'est aussi un parcours singulier, commencé dans les ghettos de la Jamaïque, et avec cette chanson, la toute première qu'il ait enregistrée. C'était en 1962, il avait 17 ans, et personne encore n'avait entendu parler de lui. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'écrire aux éditions de Tournon un dictionnaire des chansons de Bob Marley, dans lequel figure bien sûr celle que l'on vient d'entendre, Judge Not, ne me jugez pas. C'était, je crois, le tout premier enregistrement de Bob Marley. C'était en 62. Personne encore ne savait qui il était.
Personne dans le monde. Effectivement, en Jamaïque, il était déjà, lui, connu dans son propre quartier. Il s'entraînait musicalement chaque jour. Et effectivement, il passe donc la porte d'un studio pour enregistrer ce titre qui, au départ, ne convainc pas vraiment les producteurs, qui trouvent la flûte un petit peu trop présente, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque dans le reggae. Et pourtant, on peut dire, je dirais aujourd'hui, après avoir lu, entendu, écouté toute son œuvre, que cette chanson annonce pourtant les thèmes que va développer Bob Marley. Elle dessine déjà son œuvre. D'abord, il y a la spiritualité. On voit dans cette chanson qui reprend l'évangile de Luc et Matthieu. Ne me jugez pas, ne regardez pas. Enfin, vous voyez la poussière dans l'œil du voisin et pas la paille dans ton œil. Donc, c'est cette figure spirituelle donc est déjà présente. Il parle des quartiers déjà, de la revanche des pauvres qui n'y arrivent pas et aussi d'amour.
Et puis, c'est un ska. Hein, c'est ce qu'on appelle un ska. Je connais pas grand-chose dans cette musique, mais c'est ce qu'on appelle un ska, et c'est un véritable rythme national en 1962 à la Jamaïque, qui vient d'avoir cette année-là son indépendance.
Voilà, tout à fait. 1962, c'est donc l'année de l'indépendance de la Jamaïque qui se libère du joug colonial anglais. Et c'est effectivement le ska qui va accompagner, qui va être la musique de ces années-là, avec ce rythme assez joyeux, gai, saccadé, le contretemps qu'on retrouvera plus tard dans le reggae. Mais c'est un petit peu plus rapide que le reggae.
Et puis alors, c'est le pays où il est né. Il est né en février 1945 à Sainte-Anne, dans un pays très pauvre, lui-même dans la misère. misère, une misère matérielle, misère affective aussi, en raison de ses parents. Sa mère est une Jamaïcaine noire, son père est un blanc de la Jamaïque, et il l'abandonne tout de suite, son père, hein, pratiquement.
Il faut dire que l'idylle qu'a pu vivre son père avec sa mère était assez mal vue en Jamaïque. Son père était le meilleur ami du grand-père de Bob Marley. Il avait plus de 40 ans de plus que sa mère, et donc ils ont vécu un amour secret qui a débouché
sur la naissance de
Bob Marley.
Robert Nesta Marley, Robert Marley.
Voilà, Robert Nesta Marley.
Et puis alors, son père, il va le voir à peine, son père va s'en aller, ensuite va le faire venir à Kingston, et puis il l'abandonne littéralement à Kingston, où sa mère le retrouve par hasard. À Kingston, alors où il se retrouve dans un ghetto assez tristement célèbre, qui s'appelait Trenchtown, et il devient ce qu'on appelait là-bas un rude boy. C'est-à-dire en fait un délinquant, Élodie Maillot.
Voilà, il atterrit donc dans ce quartier de l'ouest de Kingston qui a été reconstruit après des cyclones et qui a fait l'enjeu plus tard, même assez rapidement, de guerre politique. Chaque partie du quartier étant attribuée à un parti qui nourrissait ces fameux rude boys, donc ces gens qui n'avaient pas grand-chose à perdre, qui vivaient d'un peu tout ce qu'on pouvait leur donner, donc effectivement de trafic, mais aussi de meurtre parfois. Donc ils ont été instrumentalisés par les différents partis politiques qui les ont armés. Ça, c'est une longue histoire assez complexe. Et lui, il chante par-ci, par-là. Il gagne un peu d'argent en ramassant des pièces qui sont envoyées dans le port par les touristes ou par les bateaux, en plongeant, en faisant différentes choses. Et à l'époque, il ne pense pas vraiment à devenir professionnel de la musique.
Et en tout cas, il veut s'en sortir grâce à la musique et avec celle qui deviendra sa femme, Rita Anderson.
Take someone coming from St. Anne's, because that's where he was born, to come to Kingston.
Pour quelqu'un qui arrivait de St. Anne, c'est là où il est né. Venir à Kingston, il fallait avoir de l'ambition. Avec son passé familial, une mère noire, un père blanc qu'il n'a pas connu. Donc il était du genre, qui suis-je? Il fallait qu'il prouve à lui-même qu'il était quelqu'un. Et c'est le Bob que je connais, pour avoir été marié avec lui, avoir fondé une famille à partir de rien, avoir dormi par terre. Comme dans sa chanson, j'avais le sol glacé pour lit, et une pierre pour oreiller. C'est vrai, ce n'est pas une blague.
Talking Blues, Bob Marley chantant en 1974, l'époque où beaucoup plus tôt il était un SDF de Kingston. J'avais le sol glacé pour lit et une pierre pour oreiller. Alors c'était la galère dans ce quartier malfamé de Trenchtown où il veut s'en sortir, vous le disiez, par la musique. Élodie Maillot, il n'était pas le seul. D'ailleurs, c'est là qu'il rencontre aussi deux amis avec lesquels il va fonder son premier groupe, les Wailers. C'était Peter Tosh et Bunny Livingston, ou plutôt appelé Bunny Wailers. Et donc les trois vont former un groupe à ce moment-là.
Tout à fait. Alors, il faut dire que dans ce quartier donc assez malfamé, mais qui n'est pas non plus un bidonville, c'est à l'origine un quartier qui a été construit pour les classes plutôt moyennes, justement, qui votent. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup, beaucoup de musiciens, puisque, malheureusement, le quartier ne sera pas si flamboyant qu'il était prévu. Il y a des petits jardins, il y a des petits lotissements, mais malheureusement, la population n'a pas assez d'argent pour vivre. Donc, beaucoup d'enfants se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes et échouent dans les rues, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui. Et la solution pour eux, évidemment, le rêve, c'est la musique. Donc, il y a à cette époque, dans les yards, c'est-à-dire les cours de ces petits lotissements, une activité musicale très intense. Et il y a notamment, effectivement, Bunny Wailers, que Bob Marley connaissait déjà, puisque sa mère était en fait remariée avec le père de Bunny Wailers, qui était donc en quelque sorte son demi-frère. Et Peter Tosh, qui est rencontré par le truchement d'un autre mentor musical qui agissait à Kingston et donc à Trenchton principalement beaucoup, puisqu'il a formé beaucoup de musiciens, c'est Joe Hicks. Donc il les fait rencontrer, ensemble ils vont travailler les mélodies. Peter Tosh lui avait l'avantage d'avoir une guitare, ce qui était à l'époque un attribut essentiel à qui voulait pratiquer la musique et ce qui était assez rare.
Et puis bon, c'est l'époque où à Jamaïque il y a vraiment un essor considérable de la musique, il y a des petits groupes qui se forment, qui jouent en public, ce qu'on appelle, je crois, les sound systems. Il y a un studio aussi célèbre tenu par un homme qui était assez roublard, Sir Coxon Dodd, hein, qui n'était pas plus sir d'ailleurs que je ne suis moi-même Rasta. Et c'est dans son studio, justement, le plus célèbre de la Jamaïque, Studio One, que les Wailers enregistrent leur premier grand succès, Simmerdown, Peter Tosh.
When we were together,
quand nous étions ensemble, nous n'étions qu'un, avec un seul message.
It was one message.
So it was a total discipline.
Bunny Wailer.
Responsibility that we knew we
nous étions
had,
conscients de notre responsabilité. Il n'était pas question de nous arrêter ou de faire marche arrière.
So that is the militancy that the Wailers had.
Les Wailers avaient cet engagement militant, c'est-à-dire que contre vents et marées, il fallait continuer et porter ce message, brandir l'étendard.
Still going, the flag has got to be hoisted.
Bob Marley.
Yes, myself as a revolutionary.
Je suis un révolutionnaire qui ne reçoit ni aide ni pot de vin et lutte avec la musique pour seule arme.
Simmerdown, le premier grand succès de Bob Marley et de ses Wailers en 1964. Je crois que c'était le premier hit parade à la Jamaïque à ce moment-là. Est-ce que c'était chanson révolutionnaire? On entendait justement Peter Tosh, Bunny Wailer et Bob Marley lui-même disait « Je suis un révolutionnaire ».
Paradoxalement, celle-ci appelle plutôt les rude boys dont vous parliez tout à l'heure, les mauvais garçons, à lever le pied, littéralement, c'est-à-dire à se calmer un petit peu. Je crois que cette chanson rassurait beaucoup la mère de Bob Marley qui commençait à s'inquiéter de ses fréquentations qui n'étaient pas excellentes donc dans ce quartier. Donc non, c'est pas encore, on va dire, la chanson la plus rebelle ni révolutionnaire qui est chantée par Marley.
Un énorme succès quand même, il est connu à la Jamaïque, ils sont connus à la Jamaïque, ce qui d'ailleurs ne les sort pas du tout de la galère, parce que je crois que ce fameux Sir Coxon Dodd, hein, qui l'enregistre, qui vend ce disque, eh bien, les avait engagés pour 3 livres par semaine, si bien d'ailleurs que Bob Marley est obligé de retourner, d'aller aux États-Unis où se trouve sa mère à ce moment dans la loi, et il va travailler dans une usine, hein. Il est connu à la Jamaïque, mais il ne gagne pas un sou.
Oui, alors là, c'est je dirais, les musiciens jamaïcains ont cette rengaine. Ils vous diront toujours que les producteurs ne les ont jamais assez payés, qu'ils les ont spoliés, ce qui est souvent vrai. Ça a été le cas, je pense, pour les Wailers, en tout cas à leur début. Même si Sir Coxon a hébergé un moment Bob Marley, même si il lui a permis de se marier, de payer la bague à sa future femme Rita Marley, même s'il a incarné une figure assez paternaliste, finalement, pour Bob Marley, qui n'avait pas de père, lui, il se faisait de l'argent, donc Sir Coxon, c'était un producteur qui avait fait ses armes aux États-Unis en achetant des disques, parce qu'à l'époque, il travaillait dans les plantations, donc il avait découvert le rhythm and blues. Et c'est lui qui va, via ce fameux studio, le Studio One, développer le ska, le reggae, cette musique vraiment intrinsèquement jamaïcaine, et se faire beaucoup d'argent dans ses soirées, donc ses sound systems, ses soirées mobiles. C'est vrai qu'au début de leur carrière, il n'a pas versé beaucoup d'argent aux Wailers. Donc Bob Marley travaille aux États-Unis, il gagne de l'argent, et de retour en Jamaïque, décide de former lui-même, de fonder lui-même son propre label, donc avec ses amis, les deux autres Wailers.
Et il revient des États-Unis, où il se trouvait d'ailleurs au moment où, en 1966, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, arrivait à la Jamaïque, où il est considéré là-bas comme un véritable messie, annoncé quelques années plus tôt par un Jamaïcain étrange qui s'appelait Marcus Garvey, le père d'une religion à laquelle s'est converti Bob Marley.
Marcus Garvey. So I must look to the king, look for a king in the east. Black king.
Marcus Garvey a dit que nous devions trouver un roi à l'est, un roi noir. En 1930, on couronne Sa Majesté, Haïlé Sélassié. C'est à ce moment que Marcus Garvey parle de regagner l'Afrique.
You see, the wrong thing about it is that Christ, he come from Africa.
Le Christ vient d'Afrique et il est né en juillet. Le mouvement Rastafari a commencé avec le couronnement de Sa Majesté. C'est le roi des rois. Rastafari. Puis la Bible révèle cet homme. Tout coule de source.
Africa, unite. Cause we're moving right out of Babylon. And we're grooving to our father's land. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rasta man. As it's been said already, let it be done.
Africa Unite, de Bob Marley en 1979. Nous sommes les enfants de Rastaman, les adeptes donc d'une religion, le rastafarisme, auquel il se convertit, Elodie Maillot, en 1966. Qu'est-ce que c'est que le rastafarisme?
Alors, donc, il était déjà, disons, familiarisé avec les idées des rastas qui ont, on va dire, pour résumer rapidement, émergé dans les années 30 en Jamaïque, après l'annonce donc de Marcus Garvey qui disait « Regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné et il amènera le peuple noir à la rédemption. »
Ce roi noir, c'est Rastafari Makonnen, je crois, qui deviendra Haïlé Selassie, empereur d'Éthiopie, en 1930. Il y a un véritable dieu pour eux.
Voilà, du coup, les Jamaïcains se disent, voilà, c'est ce messie dont nous avait parlé Marcus Garvey, un Jamaïcain intellectuel, journaliste, syndicaliste, qui s'est battu pour les droits des Noirs dans un pays où quand même l'esclavage, l'abolition de l'esclavage avait à peine un siècle. Donc c'était encore des questions, l'indépendance n'était pas encore arrivée, etc. Donc c'était des questions qui agitaient quand même la société, dont on parlait peu. Alors, ils se sont tournés vers ce roi, les Rastas, donc sont devenus les Rastas, en honneur à ce roi Rastafari. C'est assez complexe, je dirais que c'est pour certains une philosophie, pour d'autres une religion. En gros, est Rasta celui qui reconnaît Rastafari comme Dieu, empereur donc de la Trinité. Rastafari, c'est ce que ça veut dire, pouvoir de la Trinité en Amérique.
Et une religion avec un rituel hein, que l'on connaît, qui était très visible évidemment dans toute la bande de Marley, c'est d'abord on ne se coupe pas les cheveux, on ne se les peigne pas, on ne consomme pas d'alcool, pas de sel, mais en revanche on consomme de la marijuana, hein, la ganja, ça c'est obligatoire parce que c'est bon pour la méditation, je crois, Elodie Maillot, en tout cas selon les Rastas.
Voilà, en Jamaïque, on adapte le calice à ce qu'on appelle le chalice, qui n'est d'autre donc qu'une pipe dans laquelle se fume l'herbe. Voilà, c'est une transposition, une espèce de syncrétisme dans lequel il y a des valeurs africaines, chrétiennes bien sûr aussi, et puis caribéennes. Voilà, c'est un espèce de melting pot dans lequel effectivement beaucoup de gens se retrouvent parce que d'abord on leur dit qu'ils sont africains. Et ça, je pense que à cette époque, c'était assez tabou. Aux États-Unis et dans la Caraïbe, personne ne se reconnaissait comme réellement africain.
C'est ça qui explique le succès, justement, de Marley, de Bob Marley, entre autres.
Je pense que ça a touché évidemment le tiers-monde en général, évidemment les Africains et les descendants d'Afrique, même si aux États-Unis les Noirs américains ont au départ plutôt boudé la musique et le message de Bob Marley. Je pense que c'est parce qu'aussi il a un message assez universel, pacifiste et en même temps rebelle, mystique, révolutionnaire, qui est capable de toucher beaucoup de gens. Et puis il y a aussi cette utilisation constante de la Bible, détournement des psaumes, des phrases, de différents livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, dans ses paroles. Du coup, ces métaphores, ces paraboles, etc., rappellent, je pense, dans l'inconscient collectif des choses qu'on connaît aussi. Donc, quelque part, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans sa musique.
Et une musique justement nouvelle et qui apparaît justement à ce moment-là, à la Jamaïque, ce sera le reggae avec Bob Marley, avec lequel Bob Marley va faire le tour du monde. France Inter, Alain Bédouet, le 4 juillet 1980.
Super, extra, génial, en tout cas succès monstre pour Bob Marley et ses Wailers pour le plus grand concert jamais organisé en France. Il y avait près de 50 000 personnes hier soir au Bourget, 50 000 fidèles venus adorer le pape du reggae. Tout le monde a dansé sur la musique jamaïcaine, y compris notre reporter Pierre Veil, qui n'a pas pour autant, heureusement, lâché son micro.
Pour moi, c'est un gangala, pour moi, c'est un événement. un grand événement pour moi. C'est comme une fête nationale. Vous voyez, parce que moi, je suis un peu partisan du diable. Tu vois, du Rasta.
C'est quoi le Rasta? Moi, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est?
C'est une religion qui vient de l'Éthiopie avec Haïssa Salassé. C'est un bonhomme, pour lui, il prêche la parole de Dieu, tu vois. Et c'est ça qu'on appelle le Rastafari. C'est une religion. Et puis nous sommes contents, nous sommes gays, on s'éclate. Comme tout le monde là, regardez, il y a des jeunes qui se défoulent. Mais moi aussi, je me défoule, je m'éclate.
D'un des titres les plus célèbres de Bob Marley en 1980. Là, on est loin quand même de la musique qu'on entendait au tout début, celle de 1962, le ska, hein, la première chanson de Marley. Là, c'est le reggae qui va très vite connaître un succès considérable. Est-ce que c'est lui? Il en était le pape, est-ce qu'il en était l'inventeur, Elodie Maillot?
L'inventeur du reggae, non, certainement pas. Le mot reggae, la controverse sur le mot reggae, parce qu'il y a beaucoup de controverses en Jamaïque, on aime discuter de tout, attribuerait le mot à un autre artiste qui s'appelle Toots Hibbert, qui aurait chanté une chanson qui s'appelait Do the Reggae, qui symboliserait ce ralentissement du rythme un peu plus saccadé qu'on a écouté au début de cette émission. Donc Bob Marley est pas l'inventeur du reggae, ça c'est sûr. Maintenant, il en a été évidemment l'une des icônes et il le reste. C'est lui qui l'a propagé dans le monde et qui a rencontré des artistes de rock, qui a tourné avec Bruce Springsteen, avec le premier, ça c'est sûr.
Mais justement, parce que il a eu quand même mis beaucoup de temps, il était très célèbre à la Jamaïque, mais pour en sortir, pour devenir célèbre dans le monde entier, je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle dans l'internationalisation du phénomène Marley et du reggae. C'était un Anglais, c'était Chris Blackwell, avec une maison disque appelée Island, c'est ça?
Il avait déjà eu quelques expériences avec un Américain, un noir américain qui s'appelait Danny Sims, qui était arrivé à la Jamaïque dans les années 68 parce qu'il voulait se cacher un petit peu, lui, qui avait été un peu activiste et menacé. Donc il est arrivé à la Jamaïque, qui finalement n'est pas très loin des États-Unis. Il a découvert le reggae, les Rastas, et a sorti Bob Marley, l'a emmené en Angleterre, en Suède. Et puis, bon, ça, à la suite de différents épisodes, finalement, les résultats n'ont pas été très concluants. Mais une fois que les Wailers étaient en Angleterre, ils ont effectivement plus rencontrer ce Jamaïcain blanc, puisqu'il y a beaucoup, il y a une bonne société jamaïcaine blanche, fils de planteur en général, qui réussit assez bien en Jamaïque, qui lui avait fondé un label qui s'appelait Island, qui avait déjà eu quelques succès, notamment avec Jimmy Cliff, qu'on connaît aujourd'hui comme une autre icône du reggae international. Jimmy Cliff était à l'époque, venait d'avoir un succès avec un film. Mais aussi.
Il fait le tour du monde, il y a des tournées extraordinaires, il y en a une en Afrique, il va au Zimbabwe au moment de son indépendance. Il devient même dérangeant parce qu'il devient au fond le symbole de la libération de l'Afrique et des Noirs du tiers-monde, etc. en général, au point d'ailleurs que d'inquiéter, dit-on, les États-Unis. On a même dit que quand il est mort, les Américains y étaient pour quelque chose, Elodie Maillot.
C'est vrai que il a même lui-même chanté que les Rastas ne chantaient pas et ne travaillaient pas pour la CIA à l'époque, et ça a été révélé il y a quelques années. La CIA avait constitué un gros dossier sur Bob Marley parce qu'on l'accusait d'être assez proche des partis et des milieux de gauche qui eux-mêmes étaient assez proches de Fidel Castro. Donc la CIA et les États-Unis avaient un œil braqué sur la Jamaïque, qui ne voulait pas qu'elle devienne un deuxième Cuba. Alors voilà. Ensuite, il y a beaucoup de légendes qui circulent sur sa mort, sur son empoisonnement éventuel, sur sa tentative d'assassinat en 76, qui aurait été commanditée par certains leaders de la CIA qui étaient présents en Jamaïque.
En fait, il est mort d'un cancer en 1981, le 11 mai 1981, d'ailleurs, si bien qu'en France, sa mort est passée presque inaperçue. Elle a été éclipsée, en tout cas, par l'élection la veille de François Mitterrand. Qu'est-ce qui reste très brièvement aujourd'hui de Bob Marley, 25 ans après sa mort?
En Jamaïque, c'est évidemment une icône nationale qui permet à l'office de tourisme de faire venir beaucoup de gens. Beaucoup de gens viennent le voir, c'est des lieux, des musées, enfin c'est vraiment une institution. Je pense que le reggae continue encore. Il est joué partout, que ce soit dans les pays de l'Est, en Europe, aux États-Unis. Voilà. Je pense que Bob Marley restera quand
un
même...
Un des plus grands musiciens, dites-vous, du XXe siècle.
Oui, je pense qu'il aura marqué par sa démarche, parce que c'est le premier musicien du tiers-monde à avoir réussi, et par ses paroles, je pense qu'il marque la musique à long terme.
Merci Elodie Maillot, et puisque c'est aujourd'hui la fête de la musique et que vous nous parliez de Bob Marley, eh bien on lui laisse exceptionnellement le dernier mot avec un de ses titres les plus célèbres, chanté en public en 1974, 7 ans avant sa mort, « No Woman, No Cry ». Je rappelle que mon invité Elodie Maillot est l'auteur d'un dictionnaire des chansons de Bob Marley qui vient de paraître aux éditions de Tournon. À lire aussi la biographie de Bob Marley écrite par François Dordor et Francis Dordor est paru aux éditions Librio. Et puis aux éditions Panama, Bob Marley, la légende, un magnifique livre de James Hank avec un CD audio de 50 minutes d'interview de Bob Marley. Nous avons diffusé des extraits de Bob Marley and the Wailers, Catch a Fire, un DVD classique album, et Bob Marley, The Legend Live, un DVD trop genre. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari, Julien Chabassu, Claire Destacan et Claire Tesser, et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire et bien avant Bob Marley, l'époque où du 8e siècle au 14e siècle, l'Espagne était musulmane. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, l'émir du reggae, le calife de musique...